Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Je roule et le vent emporte les images, les mots. Fuir, bouger, ne plus s'arrêter. L'air est doux. Ma mère attendait mars avec impatience, le plus beau mois. Il est là, mais l'odeur de la boue mélangée à l'herbe jaunie, à celle du bois pourri, domine tout dans des relents écœurants. Pourtant, elle aimait jusqu'à ces odeurs. La vie peut sentir mauvais, c'est toujours de la vie. Et plus elle pue, moins elle ment. Elle pue, oui, comme si la vie était morte. Soudain, je me demande quand on l'enterrera. Debout sur les pédales, j'accélère. Je passe les rues en coupant les virages, penché sur mon guidon. J'entre dans une impasse. Entre deux maisons, un chemin mène au bois qui surplombe la ville. Le vélo creuse un profond sillon dans la terre meuble avant de s'arrêter. Mon pied s'enfonce dans la boue. Je porte le vélo par le cadre et marche à pas lourds et collants dans le chemin, les orteils repliés pour ne pas perdre mes chaussures. L'eau s'écoule en bruit clair dans le chevelu, des fines rigoles. Parvenu au sommet de la colline, je laisse tomber le vélo et reprends mon souffle. Et maintenant, la vie s'étale. Mes pieds sont englués. Je m'enfonce, petit à petit. Je me remets en route. De l'autre côté de la colline, la descente, pavée de dalles de pierre, est plus facile. Elle mène au lavoir où certains élèves se retrouvent pour s'embrasser ou fumer. Je l'ai fait, moi aussi. La terre gicle des pneus en comète brune et constelle mes vêtements et mon visage. J'accélère jusqu'à la route principale, j'accélère toujours plus pour que mon souffle reste douloureux. Quand une voiture débouche d'une rue, je bloque les freins, avec la certitude que je n'arriverai pas à l'éviter. Mais je m'arrête à quelques centimètres de sa portière. Le cœur battant dans ma gorge, je ne lève pas la tête, je fais demi-tour et appuie de nouveau sur les pédales. Bonjour à tous.
Bonjour Monsieur Simon.
Ce texte est extrait de Le cercueil à roulettes d'Alexandre Chardin.
Quelle écriture !
Voilà, le nouveau roman d'Alexandre Chardin. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des livres ados. En tout cas, nous, on est ravis, effectivement, de retrouver aussi le mois de mars.
Mais oui.
Bonjour Véronique.
Bonjour Monsieur Simon, bonjour le mois de mars.
On a encore plein de belles choses à vous présenter, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission. Et c'est franchement un plaisir tous les mois de vous retrouver, mois après mois, pour découvrir de nouveaux titres.
Toi après toi aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Allez, on commence comme d'habitude en musique, avec cette fois-ci l'album du mois s'appelle L'échappée belle, chanson pour embouteillage, c'est Serena Fisso et Aimé de la Salle, et on écoute musique, ça tombe bien.
L'enfant écrit de la musique, il n'écrit pas n'importe quoi. L'enfant écrit de la musique, il n'écrit pas n'importe quoi.
L'enfant écrit de la musique. L'enfant écrit de la musique sur une vitre avec un doigt. Sur une vitre avec un doigt. Il n'écrit pas n'importe quoi. Il n'écrit pas n'importe quoi. Il l'entend au-dedans de soi. Il l'entend au-dedans de soi. Et cette musique est si nue, sur la vitre où rit la clarté, que les passantes dans la rue lèvent le cœur tout étonné d'entendre en elle résonner comme une musique ingénue. Cette musique qu'un enfant écrit avec un doigt tremblant sur une vitre au soir tombant. Cette musique qu'un enfant écrit avec un doigt tremblant sur une vitre au soir tombant. L'enfant écrit de la musique. L'enfant écrit de la musique sur une vitre avec un doigt. Sur une vitre avec un doigt. Il n'écrit pas n'importe quoi. Il n'écrit pas n'importe quoi. Il l'entend au-dedans de soi. Il l'entend au-dedans de soi. L'enfant est la crise de la musique.
C'était donc « Musique » de Serena Fisso et Aimé de la Salle sur un album qui s'appelle « L'échappée belle, chanson pour embouteillage » publié aux éditions des Braques. C'est donc le grand retour de Serena Fisso et Aimé de la Salle qu'on avait déjà découvert dans un spectacle qui s'appelait « Enfantine » qui avait parcouru un peu l'ensemble de la France. Et donc elles reviennent pour un nouveau spectacle et donc un nouveau livre et donc un nouveau CD, L'échappée belle, où elles se sont amusées avec leurs deux voix, parce que c'est vraiment un duo de voix, on l'a bien entendu dans ce morceau, à réinterpréter des textes, des poèmes en fait du XXe siècle. Alors il y a surtout des poèmes de Maurice Carême, mais aussi de Raymond Queneau, de Jacques Charpentreau. La musique, c'était un texte de Maurice Carême qu'elles ont mis en musique et c'est vraiment magnifique.
C'est très beau.
On écoutera d'autres morceaux.
Ça détend, en plus.
Ah, c'est bien, ça met dans un petit moment un petit peu zen.
Ouais.
Allez, on commence à parler de livres, évidemment, avec, évidemment, tout d'abord, l'actualité littéraire. Actualité littéraire, c'est l'actualité littéraire.
C'est nouveau, ça.
C'était pas celle-là.
Non.
C'était comment le...
Actualité,
ouais.
Rature de jeunesse.
Ah oui, actualité, rature de jeunesse.
Ouais.
Je l'ai perdu, mon slogan.
Ouais, c'est de pire en pire, hein, quand
ouais,
même.
C'est pas grave. En tout cas, l'actualité que j'ai choisie pour ce mois de mars, c'est la sortie, alors c'est pas encore la sortie, c'est le début du Kiss Kiss Bang Bang d'un duo que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom et Nathan Lévesque, qui vont sortir le premier guide de littérature ado. Ça s'appelle Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado. Et ces deux jeunes garçons sont vraiment dedans depuis des années. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont tous les deux des blogs, qu'ils participent en fait à la vie littéraire de la littérature young adulte, hein, la littérature ado. Ils sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Ils connaissent très très bien les auteurs. Ils animent aussi des conférences. Et ils se sont lancés dans ce projet un peu fou d'écrire un guide autour de la littérature ado. Alors, qui dit guide dit plusieurs entrées. Ça sera à la fois une sorte d'historique, en fait, de voilà, une répartition des genres, un carnet critique, des analyses des grandes thématiques, des portraits d'auteurs. En fait, ça se veut comme un livre de référence autour de cette littérature qui est très très jeune, ma foi, hein, qui a été publiée,
quelques dizaines d'années.
Exactement. Et ce sera aussi une exploration de la littérature contemporaine, puisqu'il y aura dans ce recueil 10 nouvelles inédites d'auteurs.
Oh,
et pas n'importe qui, puisqu'il y aura Clémentine Beauvais, Anne-Laure Bondou, Marie Desplechin, Timothée de Fombelle, Anne-Fleur Multon, Karina Rosenfeld, Thomas Cotto, Stéphane Servan, Julia Thévenot et Flore Vesco.
Il y a beaucoup de femmes.
Ouais.
J'aime bien entendre des noms de femmes.
Oui, parce que la littérature ado, elle est beaucoup écrite par des femmes, donc évidemment. Donc c'est un vrai plaisir de soutenir ce projet. Alors il faut savoir que ce livre, ils veulent le faire de manière complètement indépendante. Donc ils vont lancer une campagne Kiss Kiss Bang Bang.
C'est quoi Kiss Kiss Bang Bang? Je suis nulle, moi.
Vous savez, c'est les participations coopératives.
Ah,
tout le monde met des
petits
sous dans la cagnotte et puis ça permet de faire des beaux projets.
Les formes de... je sais pas quoi, là.
Comme Ulule, voilà ça. Donc là, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Et le lancement officiel de cette campagne, ce sera le 5 mars, donc c'est cette semaine. Oui. Et donc nous vous invitons, si vous aimez la littérature de jeunesse, à précommander donc ce livre sur le KissKissBankBank, ce qui va permettre à Tom et Nathan Lévesque de le produire, de le réaliser. C'est et chou. Alors ils ont déjà en plus une couverture qui est absolument sublime de Tom Ogoma, voilà, qui est en plus qu'on adore ici. Donc tout est réuni pour que, bah, pour que vous puissiez pour soutenir ce projet, que ça fonctionne. Et le lancement...
Et nous bibliothécaires, mais on attendait que ça.
Ben voilà, et nous libraires aussi, et vous lecteurs, pareil. Donc si vraiment vous voulez soutenir ce projet, c'est un projet de fou, hein, parce que se lancer sur un tel guide, c'est vraiment énorme. Donc il faut les soutenir, donc voilà, ça sera une campagne. Et je signale aux libraires qu'il y aura une campagne spéciale pour les libraires, qui pourront commander donc plusieurs exemplaires, spécialement par ce biais-là. Donc pour l'avoir dans vos librairies, donc avec une remise libraire et tout, enfin ils ont fait ça bien. Donc voilà, donc vous restez aux aguets, ça s'appelle Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado. Ils sont présents sur les réseaux, il y a un site dédié, vous pourrez retrouver toutes les infos, et puis le Kiss Kiss Bang Bang est disponible à partir du 5 mars.
C'est un beau titre,
hein. Oui, en plus c'est beau, hein. Ouais. Et puis l'illustration elle est trop belle. Ouais. Voilà. Allez, on continue, hein, sur les livres, et on va comme d'habitude remonter l'âge de l'enfance et commencer par la petite enfance.
Oui, c'est
avec
à
vous,
moi.
Véro.
C'est à moi, c'est à moi. Donc c'est le rêve de la belle Mimi, Vanessa Hillier. L'élan vert, et l'élan vert nous régale à nouveau avec ce talent unique qu'il possède, enfin que ses éditeurs possèdent, pour mettre l'art à la portée de tous, et ici avec cette nouvelle collection à la portée des tout-petits. Donc cette nouvelle collection, ça s'appelle Les Premiers Pas.
Donc vous connaissez le Pont des Arts,
voilà,
qui
le
était
Pont
plutôt
des
pour
Arts,
les plus grands.
Ouais. Ouais, ouais.
Et là, cette fois-ci...
Là, c'est vraiment adapté à la petite enfance, mais ça m'a été très, très... Ça m'allait très bien aussi, hein, parce qu'on est sur un très joli album cartonné. On va retrouver l'univers, là, le rêve de la belle Mimi, c'est l'univers du douanier Rousseau.
C'est basé, Mimi, c'est le rêve, en fait, c'est ça?
C'est le rêve. Le tableau du douanier, c'est le rêve. Et puis, j'ai une petite tendresse pour ce douanier et pour ses réalisations, parce que je trouve que c'est... précurseur de la littérature jeunesse pour moi. Enfin, comment je l'ai découvert, je trouve que c'est des univers tellement joyeux, pétillants,
vous voulez dire
colorés.
Que ce serait un excellent illustrateur jeunesse?
Ah, ce serait génial. S'il pouvait revenir, quoi, nous faire quelques petits dessins.
Un petit album illustré,
ouais,
par
ouais.
Douanier Rousseau.
Tout à fait. Ah, ce serait pas mal, ouais.
Peut-être que
s'il nous écoute.
Bah, s'il nous écoute et s'il était né maintenant,
ah bah.
Il ferait de l'illustration jeunesse.
Exactement. Et donc, c'est Vanessa Hillier qui s'est inspirée du douanier Rousseau pour créer cet album qui est vraiment magnifique au niveau graphique. Et en même temps, il y a un texte totalement adapté à la petite enfance, comme je les aime, un texte qui se déguste, qui chante, qui est vraiment très rythmé, ça fait des petits poèmes à chaque fois. Je vous en lis juste un. Dans le rêve de la belle Mimi, il y a deux lions rigolos, leurs moustaches frétillent, leurs yeux sont ronds comme des billes, la belle Mimi leur gratte le menton, ils ronronnent comme des chatons. Et on retrouve, tout le monde connaît plus ou moins les œuvres du douanier Rousseau, mais on est vraiment dans son univers, elle a totalement respecté son univers, et tout en faisant une belle histoire où on est avec Mimi, dans la jungle, avec les animaux et les végétaux, et les couleurs de tous ces animaux et végétaux, et on déambule, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau, c'est une belle initiation, je dirais qu'on fait des bains de langage quand on leur parle dans les langues étrangères, là on fait un bain dans l'art, quoi, tout
bien.
Simplement, dans le beau.
Eh bien, on va suivre cette collection qui promet effectivement,
ah oui,
beaucoup.
Oui.
Il y avait peut-être eu l'ours aussi, l'ours pompon.
Je crois qu'il y en avait, ouais, mais j'ai pas été
l'ours
chercher,
pompon,
oui,
qui avait été fait
ça.
Par Antoine,
ouais,
Guillopé,
ouais,
qui devait être dans le même format.
Très belle initiative, ouais.
Eh bien, moi, je continue aussi avec un vrai coup de cœur. Ça s'appelle « Papa, papa, papa ». C'est écrit par Julien Hirsinger et Constance Verluca, et illustré par la grande Anouk Ricard. Et le tout est publié à La Grume. On va faire un petit duo La Grume, d'ailleurs,
oui,
parce qu'on trouve que c'est un éditeur qui vraiment vaut le coup. Et ce papa, 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 c'est un vrai bonheur de lecture, puisqu'on va voir en fait un jeune garçon qui, toutes les deux pages, hurle, « Papa, papa, papa !» Voilà, hein, comme font,
ouais,
quelques enfants.
Ouais, ouais, un petit peu.
Et toutes les autres double pages, en fait, on voit le père qui arrive à chaque fois. Alors, il est vraiment sympa. Pas ce père,
hein,
hein. Hein. Il est serviable.
Vous êtes comme ça, monsieur.
Il est serviable. Et à chaque fois, le jeune garçon a une requête. Alors, la première, c'est « Papa, je voudrais la grosse pomme, mais l'échelle est cassée. Tu peux me porter ?» Et donc on voit le père évidemment prendre l'enfant sur ses épaules et donc l'enfant peut prendre la pomme. Merci papa, de rien. Papa, 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 j'arrive. Alors à chaque fois le père est quand même dans des situations qui sont assez peu communes hein, dans la littérature jeunesse, puisque il fait la vaisselle, il s'occupe de ses enfants, il étend le linge. Voilà, donc c'est un père moderne. Hein,
oui, c'est un père dans la maison.
Donc là il fait la vaisselle. J'arrive. Papa, je voudrais bien dessiner, mais la table est trop haute. Tu peux m'aider ? Et donc on va le père se mettre à genoux et faire la table à la bonne hauteur pour le petit garçon. Merci beaucoup papa, de rien. Papa, 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 j'arrive. Papa, je voudrais faire de la balançoire mais elle est toute mouillée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là on voit le père donc se mettre, s'étendre.
Ah oui, il donne beaucoup de sa personne.
Voilà, et il devient donc la balançoire lui-même. Merci beaucoup, beaucoup papa, de rien. Papa, 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 j'arrive. Papa, je voudrais surfer sur la grosse vague, mais ma planche est trop petite. Tu peux m'en trouver une autre ? Et on voit le père donc se transformer en planche de surf. Merci beaucoup, 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 papa. De rien. Papa, papa, papa. Ah, évidemment, le père, au bout d'un moment, plus ça va, plus il commence à être bossu, il a un peu mal. Oui. Donc il va faire le ballon de foot. Aïe. Il va faire. Ouais, non, là, ça devient vraiment
critique. Il va tout le casser, son papa.
C'est ça. Après, il voudrait un chien. Il dit : non, t'es sûr ? Oui. Donc il va faire le chien, voilà. Enfin,
c'est de la dérobade.
C'est la soumission, hein. C'est vraiment, c'est horrible. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, le père, il n'en peut plus. Donc ça finit par « Papa, 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 je voudrais que tu viennes me dire une bonne nuit. » Papa ?
Je suis sûr qu'il dort. Ah bah oui,
pauvre petit papa, il s'est endormi et il n'a même pas d'oreiller tout doux. Et là, le petit garçon, qui était quand même insupportable, va se transformer en petit coussin tout doux pour le papa, qui va lui dire « Merci mon chéri, de rien papa. » Voilà. Donc c'est vraiment un livre à la fois tendre, drôle à raconter, un plaisir à raconter. Et là, vous avez juste eu un petit aperçu. Le tout en chéri, évidemment, du dessin d'Anouk Ricard. Anouk Ricard, c'est Anna et Froga, c'est la série des petits manuels au seuil. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Donc un vrai plaisir pour les petits qui allient à la fois humour et à la fois tendresse. Et puis un papa, effectivement, qui n'est pas comme les autres. Il m'a fait un peu penser à La Boîte des Papas qui était publiée à l'École des Loisirs. Le Sceau, tout à fait. Voilà. Et donc, on va rester chez Lagrume, puisqu'on a un deuxième livre de chez Lagrume à présenter, qui est cette fois-ci encore très drôle, qui s'appelle Le Slip du Roi. Oui. On s'en fait une lecture, c'est ça ?
De Mathias Malingré, et on est dans les citrons et les oranges. Le Slip du Roi. Donc, le roi est tout nu, qu'on habille le roi.
Pressons, mon royal derrière est en plein courant d'air.
Le petit slip brodé du roi.
Ça commence mal, ce n'est pas du tout mon préféré.
Les fines chaussettes en or du roi.
De l'or ? Mais c'est complètement démodé.
Les délicats collants à paillettes du roi.
Oui, ne serrez pas si fort, mon ventre va exploser.
La magnifique chemise à pompons du roi.
Oh non, pas celle-là, elle me gratte.
Le joli gilet à motif du roi.
Affreux, j'en ai carrément le tournis.
Les 12 bottines à plumes du roi.
Oh, quelle horreur, je suis ridicule avec ça.
L'élégante perruque en soie du roi.
Oh, mais j'ai trop chaud avec cette moumoute.
Le majestueux manteau en velours du roi.
De pire en pire, maintenant je ne peux plus bouger.
Le superbe sceptre de pierre précieuse du roi.
Non, je n'ai pas envie de le porter, je suis fatigué.
L'énorme couronne brillante du roi.
Pouah, c'est hyper lourd.
Le roi est habillé.
Ah bah c'est pas trop tôt. Hein. Oups. J'ai envie de faire pipi.
Voilà.
Un grand classique, mais qui marche toujours.
Ouais, et puis on s'amuse beaucoup.
Voilà. Donc voilà, hein, tout est dit. Alors aussi, quand même, le dessin de Mathias Malingré, qui est quand même super.
Ouais, tout à fait.
Tout en...
Donc tous les habits qui ont été cités sont dessinés en conséquence.
Et on voit le roi s'accumuler avec tout ça. Mmh. Allez, on continue avec un album qui est un peu entre les deux en fait. C'est dans une collection pour les petits mais qui n'est pas vraiment pour les petits. C'est une collection cartonnée mais qui n'a jamais été vraiment pour les tout petits. C'est la collection Tête de l'Arche et Thierry Magnier. Et ils rééditent leur grand classique et vous avez choisi un de ces grands classiques.
Et oui, Herman et Dominique, Alexandra Pichard chez Thierry Magnier. Bon, je suis très heureuse de cette réédition, même si j'ai gardé le tout petit avec moi longtemps, et je l'ai toujours d'ailleurs, il faisait partie de mes ingrédients à mes menus de littérature jeunesse. Eh bien, il s'agit d'Herman, qui a une amie, tous les matins à 7h, il la réveille, et c'est Dominique, et c'est sa moule domestique. Il a une moule domestique, et il la promène avant d'aller travailler, normal, quoi, il vaut mieux promener sa moule tous les matins. Quand Herman rentre à la maison, Dominique lui fait couler un bain chaud. Donc Dominique est très attentionné aussi. Herman prépare la soupe, ils mangent tous les deux en tête à tête. Dominique la laisse toujours refroidir quelques minutes avant de l'avaler. Et avant de se coucher, Dominique et Herman regardent Thalassa avec Georges Pernoud. Alors ça se passe dans les années, il y a peut-être 20 ans de ça.
Oui, même. C'est ça, parce que les enfants d'aujourd'hui...
Georges Pernoud, je ne sais pas.
Non, mais Thalassa, les parents pourront en parler.
Voilà, c'est ça. Mais ce matin, Dominique n'est pas dans son lit. Elle a disparu. Et Herman va la chercher partout, dans toute la maison. Et ses recherches mènent à un message que Dominique a laissé sur le frigo. Je suis partie chercher le pain et, entre parenthèses, je ne reviens pas. Dominique. Et alors là, Herman va rentrer dans une dépression absolument terrible. Chaque été, il repart à Noirmoutier dans l'espoir d'y retrouver Dominique. Et sur l'île, par contre, au bout d'un moment, il fait la connaissance de Marie-Claude, qui est une huître de la région. Marie-Claude aime la nature, les chevaux et les sorties culturelles. Herman l'emmène au restaurant. Et là, au restaurant, il est avec Marie-Claude, comme ça, en tête à tête, et on leur sert un plat de moule. Et là, Herman, c'est la fin du livre, reconnaît Dominique. Voilà, j'adore.
Je me souviens encore de ouais, la première fois où je l'ai lu. C'est un livre qui est complètement atypique, qui ressemble à rien.
C'est ça, mais
et qui marquait un peu à ce moment-là l'identité de la collection Tête de l'Art. Donc
exactement.
Collection qui est co-dirigée par Antonin Louchard, notamment.
Oui,
reconnaît son humour.
Ouais,
je suis lapin. Donc voilà. Donc c'est voilà.
Absolument hilarant.
Moi, j'avais Léon Lettron que j'aimais beaucoup aussi.
Oui.
Vous vous souvenez de Léon Lettron?
Oui.
Bon, on en représentera peut-être de temps en temps comme ça au gré des rééditions. Allez, on continue avec un album qui cette fois-ci est un peu plus grave, mais qui a un très joli album. Ça s'appelle Les Top 3 de Théo. C'est un livre anglo-saxon, en tout cas son autrice est anglaise, ça s'appelle Wendy Medour. Et c'est illustré par un Suédois qui s'appelle Daniel Egneus, qui vit maintenant en Grèce. C'est un livre international.
C'est
publié chez l'éditeur français Little Urban.
Et voilà.
Voilà, éditeur qu'on
c'est
aime
un livre
beaucoup.
Européen.
Exactement, c'est un livre qu'on aime beaucoup, qui est vraiment très sensible. On va suivre l'histoire de Théo. Théo, il parle, il n'arrête pas de parler. Et son papy, lui, c'est plutôt un taiseux. Il aime bien, il jardine, il ne l'écoute pas vraiment. Et un jour, le petit garçon, ça l'embête un peu, donc il va demander à sa maman, pourquoi papy ne dit rien? Alors la mère lui dit, laisse-lui un peu de temps. Alors Théo, il attend 6 minutes et demie. C'est le max, hein, je pense, que ce qu'il peut attendre. Voilà. Et il dit, papy, tu joues au train avec moi, s'il te plaît? Mais papy ne répond rien. Les oreilles de papy sont cassées, dit Théo. Demande-lui s'il aimerait une tartine, lui dit maman. Papy, tu veux une tartine? Papy émit juste un petit grognement. Alors essayez. Papy, c'est quoi ton top 3 des meilleures tartines? Papy ne répond rien. Moi, mon top 3 dans l'ordre, c'est chocolat, confiture de framboise et fromage fondu. Ok. Et là, papy, il aime bien les top 3.
Ah.
Ouais. Alors, il va dire rillettes de saumon, dit papy. Oh, et la deuxième, et la troisième, dit Théo, t'es excité. Caramel au beurre salé, omelette et salade, dit papy. Oh, t'es au courant, cuisine. Et il se mange donc des tartines. Et puis le top 3 par contre du coup ça lui a plu, donc ils vont commencer à se donner plein de top 3 à deviner. Donc là par exemple c'est le top 3 des méduses les plus extraordinaires. Alors la méduse lune, la cassiopée qui a la tête en bas, et c'est la crinière de lion.
Oui, ils s'y connaissent trop. Ouais.
Et le papy dit, non, moi je préfère la cuboméduse, la méduse boussole et la galère portugaise.
Ça existe vraiment ça? Ah bon?
Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, c'est le top 3 des sorties. Alors, le Théo dit le zoo, la piscine, le parc. Alors, évidemment, ils vont aller au zoo, à la piscine et au parc. Et petit à petit, comme ça, le lien se crée entre le petit garçon et son papy. Et c'est vraiment un album qui joue sur la tendresse. Je ne vous raconte pas la fin, parce qu'à la fin, elle est très émouvante.
Ouais.
Elle est vraiment très belle. C'est un dernier top 3 qui est vraiment très beau, qui va parler de mamie.
Ah ben.
Voilà, hein, de mamie
qui n'est plus là. Et c'est un livre, je trouve, sur le partage intergénérationnel, sur ces grands-pères un peu taiseux dont on ne sait pas forcément comment les aborder et comment le lien va se créer petit à petit par les petits détails, par le jeu, effectivement. Et par le souvenir, évidemment. Ouais. Donc c'est et puis le dessin de Daniel Egnéus est super beau. Donc c'est un vrai beau livre à offrir à son grand-père et à son enfant. Je pense que c'est un beau livre de partage. Ça s'appelle Les Top 3 de Théo, de Wendy Médour et Daniel Egnéus, et c'est chez Little Urban. Et on reste chez les Anglais, je crois, avec un petit coup de cœur que vous avez eu pour un livre d'Emma Chichester Clark.
Est-ce que ce ne serait pas le livre qui est sous le... Non, j'ai rêvé.
Ah, vous l'avez oublié, si je le vois.
Il est là, excusez-moi. Donc, Emma Chichester Clark, c'est ça. On est chez Albin Michel et c'est Le Sauvetage de Choupinou. Et Choupinou, on est vraiment dans un album qui est très politiquement incorrect et ça, j'ai adoré.
Oui.
J'ai vraiment adoré parce qu'il se trouve que Imelda, donc c'est une... c'est une sale gosse. C'est vraiment une sale gosse. Elle est épouvantable, bien pire que l'enfant du papa. Et ses parents sont absolument en admiration totale devant elle. Ils lui passent tous ses caprices et tout.
Elle est insupportable.
Insupportable, c'est épouvantable. Et même, c'est difficile de tourner les pages. On se dit, mais elle ne va jamais changer.
Non, il ne faut pas le dire. On a envie de lui faire un gros bisou.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est une tête à bisou.
Oui, une tête à... voilà, c'est ça, oui. Et donc, elle a un lapin, en plus, qu'elle a eu depuis sa naissance. On la voit d'ailleurs depuis sa naissance. Même petite,
c'est terrible.
Et c'est son doudou, quoi. Enfin, bon, bref, il s'appelle Choupinou. Et alors, c'est son souffre-douleur. Elle lui fait voir... Vraiment, elle lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est épouvantable. Et puis un jour, Choupinou, il arrive à s'esquiver et il se planque d'ailleurs derrière une des chaussures de la maman.
D'ailleurs, on est trop contents à ce moment-là.
Ah oui.
On se dit
ça fait du bien là.
Vas-y, Choupinou.
Ça fait du bien. Et les parents sont complètement. Bon, évidemment, Imelda crie dans tous les sens, va partout, c'est horrible, elle met tout en dessous. Et les parents font tout pour essayer de trouver Choupinou et ensuite de la consoler, essayer de trouver un remplaçant à Choupinou. Ils vont chercher un lapin. Un vrai lapin d'ailleurs, avec qui elle va commencer à jouer et tout, mais ça marche pas bien, elle va essayer de le maltraiter et tout. Et ce lapin grandit, il devient bien plus grand que Imelda. Et il lui dit, ça commence à bien faire, tu m'énerves, t'as intérêt de changer, enfin en gros, parce que là franchement, t'es pas possible. En gros, t'es une sale gosse. Il lui dit ça carrément. T'es une sale... Pas exactement comme ça, mais voilà.
Et en tant que lecteur, on ne peut pas vraiment lui donner tort.
Alors là, c'est pas possible parce que c'est carrément... C'est insupportable, les premières pages, hein, vraiment. Et donc là, elle en est muette. Oh, pas longtemps parce qu'elle se remet à brailler. Les parents la soutiennent. Et le grand lapin leur dit, mais vous n'avez pas vraiment envie que votre fille change et tout. Et non, il la trouve très bien comme ça. Il reste avec elle. Donc, le grand lapin a repéré le pauvre Choupinou qui trempe toujours derrière la chaussure de la maman. Et il va sauver Choupinou. Ils vont partir tous les deux ensemble et ils vont laisser Imelda dans ses colères, ses cris et ses parents dans cette même ambiance sympathique. Et donc il n'y a pas de fin. Enfin, la fin, c'est qu'il y a un sauvetage du grand lapin et du petit lapin, on va dire.
Mais en tout cas, ça laisse et les parents et la jeune fille ensemble.
Exactement.
On sauve juste Choupinou.
Voilà, Choupinou.
Il fallait sauver le lapin.
Apparemment, elle est... elle va rester
comme
ça, vous savez, elle changera pas. Voilà, c'est ça que j'aime bien.
Mais ça fait du bien.
Ils disent bien, il y a des gens qui ne changent jamais.
Mais je trouve que ça fait du bien.
Certaines personnes ne changent jamais, dit le lapin. C'est vrai qu'on ferme à Choupinou. C'est dommage qu'il n'ait pas une fin heureuse à cette histoire. Moi, je suis heureux, dit le lapin. Moi aussi, dit Choupinou. Et les voilà partis. Et voilà, c'est très nouveau. C'est vraiment très nouveau. Ça fait vraiment du bien.
Ouais, ça fait du bien, je trouve aussi. Hein, autant des enfants rois et des parents.
C'est très très bien.
Voilà. Bon, voilà. C'est notre livre d'éducation positive raté, en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est aussi pour peut-être ça déculpabilise. Enfin, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Je suis d'accord. Et puis c'est bien parce que ce genre de livres peuvent arriver dans la littérature, c'est montrer aussi toute sa richesse.
Exactement.
Et puis c'est fait avec beaucoup de malice et beaucoup d'intelligence aussi. C'est un livre qui est vraiment très drôle. Allez, dans les livres vraiment sympas à lire, on a un petit coup de cœur. Allez, on vous le présente. Ça va bien, petit générique.
Oh yeah. yeah.
Et le coup de cœur s'appelle Le Grand Mouton d'André Prigent. Et c'est publié chez Kaléidoscope.
Ça fait longtemps, André Prigent.
Sur une colline pousse de l'herbe délicieuse. Et sur cette colline vivent quatre moutons. Près de cette colline vit un loup très solitaire, et surtout très myope. Mais les quatre moutons sont loin d'être bêtes. Alors quand l'un d'entre eux voit venir le loup au loin, il crie « Ta !» C'est le signal pour faire un tas de moutons.
Ah.
Et quand le loup approche, le mouton du dessus chuchote « Momotte ». C'est le signal pour cacher 3 têtes et 12 pattes dans la laine. Cela fait un énorme mouton avec une toute petite tête, ce qui impressionne à chaque fois le loup, et à chaque fois le loup s'en va découragé. Mais aujourd'hui, le loup est curieux. Il demande au mouton « Grand mouton, tu manges quoi pour être aussi grand ?»«
Je broute de l'herbe, » répond le mouton.
« Alors si je broute de l'herbe, je deviendrai grand comme toi ?» demande le loup. « Bien sûr, » répond le mouton, « l'herbe à loup pousse très loin, là-bas, derrière la colline. Sois patient, broute matin, midi et soir, et tu deviendras grand. » se dit le loup, « dans quelques mois, je serai plus grand que ce grand mouton. » Les mois passent, et les quatre moutons, ne voyant plus le loup, ne font plus de tas. Mais un jour, le loup revient. Il est déjà tout près de la colline quand un mouton l'aperçoit. Paniqué, il crie « Ta !» Puis quelques secondes après, le mouton du dessus s'exclame « Moumoute !» Mais le loup est déjà là, au pied du grand mouton. Il lève la tête et s'écrie « Dis donc, toi, depuis 6 mois, je broute, je broute, je broute. Je ne suis pas devenu grand, mais 2 choses ont changé. Je ne suis plus myope. Je vois tout ce qui se passe au loin. »
« Quand tu t'es approché de la colline, qu'as-tu vu ?» demande le mouton du dessus, tout tremblant.
« J'ai vu 4 petits moutons qui me jouaient un vilain tour, » gronde le loup.
« Et la deuxième chose ?» demande le mouton du dessus, en tremblant encore plus fort.
« Je suis devenu végétarien !» s'exclame le loup furieux. « T'as déjà vu un loup végétarien, toi ? Je ne fais plus peur à personne. Et le pire, c'est que quand tu m'as vu, tu as crié « Moumoute !» Il manquait plus que ça. Un loup ne peut pas se faire appeler « Moumoute !» Un point, c'est tout !»
Depuis ce jour, le loup n'est jamais revenu, et c'est très bien comme ça. Maintenant, quand un mouton s'ennuie, il crie « Moumoute !» La moumoute est devenue le jeu préféré des 4 moutons. Ils organisent même des concours pour les moutons des alentours. Une histoire qui finit bien.
On est chez qui ?
On est chez Kaléidoscope, qui est l'éditeur en fait, d'André Prigent depuis, depuis quelques livres. Et c'est vrai, bah, elle se fait discrète, mais elle sort quand même un livre quasiment tous les ans. Hein.
J'adore l'illustration.
Ah, c'est super. En fait, elle a complètement changé de technique depuis quelques albums. Là, c'est du papier découpé, du collage. Et ça va super bien avec l'histoire. L'histoire est parfaitement racontée. Vous l'avez bien entendu.
Oui.
Et le dessin correspond très, très bien.
Très bien,
c'est vraiment un très joli album qui correspondra pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. C'est notre coup de cœur. Allez, on va partir un petit peu en musique. On retrouve ce fameux album du mois qui s'appelle L'Échappée Belle, chanson pour embouteillage. C'est Serena Fissot et Aimée de la Sol qui nous chante Le Cheval du Manège.
Devant, il y a un cheval derrière. Et c'est mon cheval cependant qui est le premier du manège. Il est blanc comme de la neige qui scintille sous la lumière. Il a dans le flanc 3 miroirs où je me penche pour me voir. Une belle queue en bois qui est aussi large que moi. Il est si vif qu'il sauterait du manège si je voulais. a un cheval devant, il y a un cheval derrière. Et c'est mon cheval cependant qui est le premier du manège. Il est blanc comme de la neige qui scintille sous la lumière. Il a dans le flanc trois miroirs où je me penche pour me voir. Et une belle queue en bois qui est aussi large que moi. Il est si vif qu'il sauterait du manège si je voulais. Mais je le tiens d'une main ferme, il sait que c'est moi qui gouverne. Il y a un cheval devant, il y a un cheval derrière. Il faut qu'il tourne patiemment à sa place. C'est la première,
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 c'est la première.
C'est la première.
C'est la première. Non, c'est la deuxième chanson qu'on écoute de L'Échappée Belle, chanson pour embouteillage, l'album de Serena Fisso et Aimé de la Salle, publié aux éditions du Brac. C'est beau, hein?
Ah oui, c'est beau.
Tout à fait, ça donne envie. Oui, oui. Puis ça ouvre plein d'horizons.
Ouais, j'ai l'impression de cristal dans, voilà. Dans mes
et oreilles. Je vous disais un peu, moi ça me faisait penser un peu aux voix d'Hélène Bowie et d'Agnès Chaumier quand elles faisaient leurs albums chez Enfance Musique. Je trouve que ça se mêle très bien. Voilà, on a envie d'être. Alors tout l'album est comme ça, hein, donc je vous invite vraiment, si vous aimez les duos de voix, il y a juste à chaque fois un ou deux instruments comme ça, très discrets, qui viennent supporter leur voix. Mais alors c'est un petit bonheur. Allez, on continue avec cette fois-ci des albums pour les plus grands. Et moi, j'avais très envie de vous présenter un album. Ça s'appelle Louise ou l'enfance de Bigoudi, de Delphine Perret et Sébastien Mourin. Et si vous écoutez cette émission depuis plusieurs années, parce que ça fait maintenant plusieurs années, hein, vous avez déjà entendu parler de cette Bigoudi.
Mais oui. Hein, ça me dit quelque chose.
Véronique, vous avez entendu parler de ces Bigoudi. Bah oui, c'est normal, puisqu'il y avait un album qui s'appelait Bigoudi, de Delphine Perret et Sébastien Mourin, aux éditions des Fourmis Rouges. Eh bien oui, c'était, vous vous souvenez, c'était l'histoire de cette mamie hyper punk qui était un peu foldingue, hein, avec ses grandes lunettes de rockstar, et qui pleurait la mort de son bulldog. Et cette mamie, elle était géniale. Et c'était assez hallucinant de faire un album comme ça sur une vieille mamie endeuillée et d'en faire un livre absolument superbe destiné aux enfants. Eh bien, ils ont renouvelé, puisqu'ils ont... Cette mamie, on ne savait pas trop d'où elle venait et pourquoi elle était si punk et tout ça. Eh bien, c'est l'enfance de Bigoudi. De Bigoudi. Donc, c'est l'histoire de cette petite fille, Louise. Louise, c'est une petite fille. Donc, on est carrément au milieu du XXe siècle. Et cette petite fille, en fait... alors, déjà, des super lunettes, hein, dès le début de l'histoire. Elle vit en pleine campagne, dans une... On dirait une vieille bâtisse dans les... ça fait penser aux États-Unis. Dans le sud des États-Unis,
en bois un peu.
Exactement. Et cette jeune fille, un jour, elle découvre que ses parents ont décidé de déménager. Et elle était tellement bien dans son univers, dans sa maison toute seule. Quand elle arrive, en fait, elle se retrouve dans une ville qui ressemble un petit peu à New York. Et elle se retrouve enfermée dans un appartement. Et c'est triste, et c'est gris, et ça lui plaît pas. Et donc elle décide de vivre dans sa boîte en carton, et puis de dormir à côté de son lit. Et elle tire la langue aux policiers, et elle pique des colères noires si les petits pois sont mal alignés dans son assiette. Elle colle des chewing-gums dans les cahiers d'école, elle inquiète les professeurs, elle fatigue la maison. Enfin voilà, tout le monde espère que ça va passer. Mais ça passe pas. Sauf qu'un jour, en cours, c'est un cours d'art plastique, donc là pour une fois elle s'applique un petit peu. Elle va rencontrer une jeune fille. Cette jeune fille, ça commence par une rencontre très simple. En fait, la jeune fille, en se retournant, lui donne un coup de pinceau et donc elle se retrouve tachée de plein de couleurs. Donc elle commence par se crêper le chignon. Et c'est vraiment ça. Parce que les deux ont une chevelure quand même assez, assez volumineuse. Et donc elles ont les cheveux emmêlés quand elles arrivent dans le bureau de la directrice, parce qu'évidemment elles sont envoyées dans le bureau de la directrice. Et là, en fait, c'est le début d'une grande amitié. Forcément, ça commence toujours comme ça. Elles se disent, toi, t'es pas mal. T'as vu ta tête? Et toi, t'as vu la tienne? Elles se regardent et on entendit leur rire résonner dans toute l'école. Alors, devant les lavabos, elles se donnèrent une poignée de main très solennelle. Je m'appelle Louise. Moi, c'est Ella. Et elles deviennent les meilleures amies du monde. Et qu'est-ce qui est mieux de faire des bêtises tout seul?
Ou à plusieurs.
Ce qui est mieux, c'est d'en faire à deux.
À deux.
Effectivement.
Ah bah c'est
et donc, quand on est deux, on est deux fois plus fort. Alors, par exemple, la petite Ella va lui apprendre qu'elle nomme tous les pop-corn. Ils ont tous des petits noms.
Ah ouais,
donc ils vont s'amuser. Voilà.
Ah oui.
Voilà. Après, elles vont aller voir le.
C'est pas des bêtises, ça.
Non, elles vont aller voir le cinéma. Oui, non, mais ça. Elles vont dans les grands magasins pour essayer les fauteuils.
D'accord.
Enfin, en tout cas, elles vont faire vraiment les 400 coups. Et la grand-mère de Ella va coiffer les cheveux de la jeune Louise en bigoudi. Et c'est comme ça qu'elle prend son surnom de bigoudi, qu'elle gardera jusqu'à ça. Enfin, c'est un texte qui est d'une...
Ils savaient ça avant, ou ils l'ont écrit après, bigoudi?
Bigoudi, ils l'ont écrit avant. Donc ils ont d'abord écrit La vieille dame, et après ils ont voulu écrire La jeunesse.
Ouais. Donc ils ont remonté.
Et on retrouve toute la poésie. Enfin, le texte de Delphine Perret, il est somptueux. Bon, on connaît Delphine Perret, ouais. C'est Bjorn.
Ah bah ouais.
C'est des histoires qui sont toujours hyper sensibles. Énorme. Voilà. Elle a un univers tellement riche. Mmh. Mais là, elle fait preuve de tendresse, de légèreté, mais avec un petit point de punk, moi, que j'adore vraiment dans ces histoires. Mmh. Et puis le dessin, c'est de Sébastien Mourin, qui se prête à merveille. Mmh. Voilà, le tout par un éditeur, Les Fourmis Rouges, qu'on adore.
Les fourmis. Ouais.
C'est un très bel album. Mmh. C'est un magnifique album, et on l'adore. Voilà, moi j'ai fini ma chronique.
Et ben moi je vais vous emmener danser. Je vous emmène danser avec La danse de Doris de Marie Poirier aux éditions Les Grandes Personnes. Et cet album m'a éblouie. J'aime la danse. Je ne savais pas, mais je crois que je serais capable de regarder un ballet entier. Ça dépend lequel, mais je ne pensais pas en être capable. Et là, dans ce livre, c'est comme si on m'offrait un ballet. Donc là, je vais faire un peu de bruit, hein, parce que je tourne les pages, c'est un grand livre quand même. Et donc, on va voir Doris. Doris est chanceuse, elle est danseuse. Alors, le texte est magnifique en plus. Il est vraiment très beau. Et tout évoque la danse dans ce livre. Même quand on tourne les pages, on a l'impression d'une chorégraphie, de danser. Lorsqu'elle sort ce matin, Doris se sent légère. Elle traverse la ville d'un bout à l'autre, le long des grands immeubles, et rencontre une foule de gens. Enfin, voilà. Et Doris va danser, elle va faire un parcours de danse comme ça. Là cette double page me fait penser à l'univers de Jacques Demy, c'est ça, dans les parapluies de Cherbourg, plus bas, les Demoiselles de Rochefort, voilà, et où les gens se mettent à danser, et c'est esquissé, c'est, comment on dit, stylisé un peu.
Et puis il y a des couleurs en plus,
c'est,
oui.
C'est des couleurs très vives, et les gens ont tous un petit geste de danse, c'est des tout petits détails, et hop, c'est parti. Et on entend ces gens danser, on voit ces gens danser. Et Doris va continuer, elle va faire un spectacle, les spectateurs attendent et tout. On va aller voir du côté danseur, côté spectateur. Tout le monde va se mettre à danser. Quand tout le monde s'arrête de danser, Doris continue. Et Doris va danser jusqu'au dans toute la ville. Elle va danser tout en haut d'un gratte-ciel et s'envoler. Voilà. Moi, je suis émerveillée par cet album parce que mettre de la danse ou mettre la danse en scène.
Comment illustrer la danse?
Comment illustrer la danse, c'est absolument remarquable. Moi, je suis scotchée.
Mais Marie Poirier, je crois qu'elle est danseuse. Et du coup, elle est illustratrice et danseuse.
Elle sait de quoi elle parle. Son corps a guidé ses traits. On dirait un peu de papier découpé de temps en temps.
Je pense que c'est du papier découpé.
Ouais. Et donc, c'est l'histoire, par contre, de Doris. Enfin, c'est l'histoire. C'est une évocation de Doris Humphrey, qui était la première danseuse, on va dire, enfin, qui a lancé un peu la danse contemporaine, l'idée de chorégraphie aussi, et qui a été pédagogue, aux États-Unis, et qui a, au début du XXe siècle, quoi. Voilà. Et c'est vraiment remarquable. Ça fait longtemps que j'avais pas. Alors, j'aime beaucoup Les Grandes Personnes, moi et tout, mais j'étais beaucoup dans les livres un peu. Pop-up et tout. Et là, cet album, il me. Bon, je sais pas, c'est. Voilà, il me donne envie de danser.
Eh bien, dansons alors. Allez, dansons.
Dansons.
Mais avant de danser, on va continuer de parler de livres avec un petit roman, parce que, y est, on monte, hein, on arrive aux premières lectures. Et j'ai sélectionné un petit roman, une première lecture, qui s'appelle Dagfrid, des brioches sur les oreilles. C'est publié chez Mouche, dans la petite collection de l'École des loisirs. Et c'est écrit par Agnès Mathieu Daudet et illustré par Olivier Talec, s'il vous plaît. Ce petit livre, je trouve qu'il est vraiment symbolique du renouveau de la collection Mouche chez l'École des loisirs, qui se veut vraiment moderne. Vous, j'ai vu que vous aviez sélectionné un moucheron.
Un moucheron, voilà, un bébé de la mouche.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est une collection qui revit vraiment depuis quelques années.
Qui dynamise.
Qui revient avec Chien pourri, avec des personnages peut-être plus jeunes, plus modernes. Et bien là, on va partir avec Dagfrid. Alors Dagfrid, c'est une jeune fille viking. Elle s'appelle Dagfrid. Elle trouve que c'est très moche, hein, Dagfrid, parce qu'elle préférait s'appeler Zolf Veg et Astrid, comme toutes les autres.
Bah oui.
Voilà.
Bah oui.
Et la vie, elle nous raconte sa vie de fille viking. Et sa vie de fille viking, c'est pas terrible, hein, en fait. Hein.
C'est l'idée, la vraie vie d'une fille viking.
Bah ouais, c'est l'idée, c'est d'avoir des cheveux blonds, longs, et puis on fait des couettes, enfin on fait des nattes plutôt, et ces nattes, on va les mettre comme des brioches, hein, comme dans le titre,
ah oui,
des
ça.
Brioches
ah
sur
oui.
les oreilles.
Ah bah oui, oui.
Sauf qu'elle, elle déteste ça.
Comme en Alsace.
Elle déteste ça. Et elle n'est pas nous fâcher avec tous les Alsaciens.
Non, pardon.
Et donc elle décide de garder ses nattes, voilà, bien là. Et elle trouve que c'est nul ce qu'on fait quand on est fille. Mmh. On fait que à manger, et en plus, on mange que du poisson, et le poisson, elle en a marre, elle en peut plus. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir à l'aventure. Donc un jour, elle va décider de
rentrer dans un drakkar.
Non,
même pas.
De faire son petit bateau personnel, son petit drakkar personnel, et de partir à l'aventure telle une grande exploratrice.
Oh là là.
Elle se dit peut-être que je pourrais découvrir l'Amérique,
peut-être.
Mais pas du tout.
Pas du tout. Très visionnaire.
Ouais, pas du tout, parce qu'elle arrive en fait juste dans l'île d'à côté, je pense, oui. qui s'appelle le. Alors elle voudrait l'appeler le Dafrigland parce qu'elle se dit que c'est super beau comme nom.
Elle est vachement de brioche.
Voilà. Sauf que pas du tout, elle arrive dans une cité où il n'y a que des filles.
Ah.
Uh-huh. Uh-huh. Et ça s'appelle pas le Dafrigland mais l'Astridland, puisque c'est une Astrid qui est uh-huh. là. Et elles ont toutes des brioches sur la tête.
Oui, bah oui, apparemment.
Et,
c'est une boulangerie, quoi.
Et non, mais par uh-huh. contre, elles sont éleveuses de moutons.
Ah.
Et elles n'en peuvent plus des moutons. Elles se disent, mais c'est pas possible, c'est vraiment. On mange que ça, on fait que ça, on fait que cuisiner les moutons. Et donc, évidemment, les deux vont se rencontrer et il va y avoir quelque chose. Voilà, c'est ça, tout à fait. Enfin, c'est un petit texte qui est savoureux, qui est complètement atypique, hein, parce qu'une histoire de viking, de fille viking. Mais en même temps, c'est un texte qui est à la fois féministe, qui est à la fois drôle, qui est en plus porté par le dessin d'Olivier Talec. Et on a vraiment Agnès Mathieu Daudier qui a fait L'École des souris, où il y a deux volumes déjà. Voilà. Qui s'affirme comme autrice pour les plus jeunes. Enfin voilà, c'est un petit roman qui est vraiment savoureux. Dagfried, des brioches sur les oreilles, d'Agnès Mathieu Daudet, Olivier Talec, chez l'École des loisirs. Et donc vous en avez un autre.
Eh bien j'avais un petit Moucheron. Alors Moucheron, ça fait longtemps, c'est pas très longtemps que ça existe, la collection Moucheron.
Non, ça fait un an à peu près.
Ah ben c'est bien ça alors. Donc Moucheron, c'est un petit peu en dessous, Mouche, puis on s'en fiche un peu. Donc c'est tête de 3 points. Johanna Alassery, Elisa Ungar. On est à l'École des loisirs. Et alors, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Très graphique. Hein. Je l'ai mis en roman, mais c'est très, très graphique. Et c'est un frère et une sœur. La mère est très préoccupée parce qu'il y a les invités qui arrivent et doit s'occuper des invités. Et ils commencent à s'insulter. Et donc, ils se chamaillent un tout petit peu au début. Et puis, au fur et à mesure, ça prend des proportions importantes. Et il se trouve que tu l'auras cherché, tête de chaussette mal rapiécée. Et il se passe un truc. Pop, je ne sais pas ce qui se passe, mais chaque insulte, ils vont prendre la forme de l'insulte. Et là, ça devient dingue, parce qu'une tête de chaussette mal rapiécée, c'est pas terrible. Oh, tu perds rien pour attendre. Et ce qui se passe, c'est qu'ils la traitent de tête de cacaproute. Là, je vous laisse deviner la tête de cacaproute. Alors là, le frère est mort de rire, enfin, il n'en peut plus. Eh bien, si je suis un cacaproute, t'es qu'une tête de grosses fesses malodorantes. Et alors, il devient des grosses fesses malodorantes. Hein, là, photo à la pluie. Et sauf que, comme il est d'une fesse malodorante, il parle comme ça, bien fur maman et tout, parce que c'est serré au milieu, vous voyez. Donc voilà, on est. C'est absolument réjouissant au niveau vocabulaire. Hein, donc Marelle sans ciel, voilà, une tête de Marelle sans ciel, je trouve que c'est une insulte épouvantable ça. De Cyclope Bigleux, enfin voilà, c'est mais réjouissant absolument. Et alors en plus on a un petit schtroumpf savant tout en bas, donc comme une double lecture qui vient dire parce qu'elle l'a traité de d'ours bipolaire. Et donc bipolaire, c'est une maladie pas drôle du tout qui fait qu'on se sent parfois trop triste, parfois trop gay. Donc on a ces infos en plus. C'est un petit roman réjouissant, mais lisez-le à vos enfants. Franchement, c'est réconciliation totale avec les bouquins.
Super. Allez, on continue. Et moi, je parle très vite en fait d'un projet un peu fou, mais qui est vraiment très beau à soutenir. Ça s'appelle Si on chantait. C'est publié par Pocket. Tiens, c'est un livre collectif. Oui, j'ai envie. Je vois que vous avez envie de chanter. C'est un livre qui a réuni beaucoup d'auteurs de littérature de jeunesse et pas n'importe qui, puisqu'on a Suzy Morgenstern, Timothée de Fombelle, Clémentine Beauvais, Yves Grevet, Vincent Villeminot, Anne-Laure Bondou, Stéphane Michaka, Christophe Maury, Victor Dixen, Christelle Dabos, Jean-Claude Mourleva, François Plage, Jean-Philippe Arouvignot. Et voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et ils ont fait ce qu'on appelle un cadavreski, c'est-à-dire qu'ils se sont partagés, enfin ils ont écrit une histoire en commun, mais chacun faisant un chapitre et découvrant donc le chapitre de l'autre.
La fin, voilà. Et hop, ils refont.
Donc c'est un livre où ils ne toucheront aucun droit puisque tout sera reversé au Secours populaire. Donc c'est vraiment un livre, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, faire découvrir la crème de la littérature de jeunesse, allez-y. Et puis si vous voulez faire une bonne action, c'est aussi le bon moyen. Donc ça s'appelle Si on chantait, publié chez PKJ. Oui. On reste dans les textes courts. Dans les textes parcellés avec un recueil de nouvelles, c'est rare.
Ouais. C'est rare, mais j'en redemande. Donc je vous dis, ça s'appelle « Et si jamais ?» 8 nouvelles pour réinventer l'histoire. Il y a 8 auteurs, c'est dur à dire, assez connus comme Christophe Léon, Pascal Marais, Colin Thibert, enfin voilà.
Les auteurs Thierry Magnier.
Voilà, on est chez Thierry Magnier. « Et si jamais ?» Les premiers astronautes avaient découvert un être vivant sur la Lune, et s'il avait fallu garder le secret, et si jamais nous vivions toujours en monarchie, comme si la Révolution française n'avait pas eu lieu, et si jamais Facebook était source de loi, et hors de Facebook, point de salut, tu n'existes plus, et si une cohorte, ça c'est ma préférée, si une cohorte de fourmis avait décidé de décimer le tout premier représentant de l'espèce humaine après une ébouriffante remontée dans le temps. Voilà. Moi, je me suis régalée. J'adore la nouvelle. Ça me permet de lire n'importe quand, de reprendre. Voilà, c'est trop croustillant, la nouvelle. Il faudra qu'on reparle de la nouvelle. C'est vraiment...
Mais il y avait des collections Thierry Magnier, justement, avec des collections...
C'est un maître de la nouvelle.
C'est un peu un des seuls éditeurs qui avait vraiment travaillé sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est des collections qui ont du mal à vivre parce que le public français n'est pas vraiment...
Il faut qu'on fasse la promo, là.
Mais on peut prendre nos chapeaux de... Ouais. De pèlerins pas s'ils ont des chapeaux, les pèlerins d'ailleurs.
Donc,
nos sandales de pèlerins.
Ils ont des bâtons.
Ah ouais, des bâtons de pèlerins. C'est ça.
C'est comme le saucisson.
Voilà. Comme les bergers.
On va y arriver. Donc, appel à tous les auteurs, à tous les éditeurs.
Écrivez-nous des nouvelles.
Voilà.
Bon, voilà. C'est clair.
Ah ouais, ça, on ne peut pas être plus clair.
Donc, sans aucune transition, puisque nous ne pouvons pas transiter après ça. Je sais pas si on dit transit. Non, on dit pas
transitionner.
Voilà, c'est
si
ça. Nous allons passer au roman ado parce que nous arrivons déjà à la fin de l'émission et j'ai eu deux coups de cœur chez les ados. Donc j'avais vraiment très envie de vous en parler. Puis vous en avez eu un et je vous ai très envie d'en parler aussi. Le premier s'appelle Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos chez Scripto. Alors c'est une autrice vraiment qu'on aime beaucoup ici puisque vous aviez présenté Trois filles en colère. Voilà, c'est elle aussi qui avait écrit La décision. Et c'est vraiment, je trouve, une autrice qui est pas sous-côté, mais en tout cas dont on entend assez peu parler, même si Trois filles en colère avait quand même une belle renommée, mais je trouve qu'il faudrait encore en parler plus parce qu'elle écrit vraiment très bien. Dans Demandez-leur la lune, elle va nous présenter l'histoire de 4 ados, Lilou, Samantha, Bastien et Farouk. Ces 4-là, en fait, ils sont en sorte de rupture scolaire un petit peu. Ils n'ont pas pu passer en seconde générale. Et ça se passe plutôt dans une sorte de province, en fait, pas dans une grande ville, forcément. Et quel peut être l'avenir de ces quatre ados-là, si on peut pas pousser les études, ça peut pas faire comme ça, et puis en même temps ils ont pas forcément envie de travailler tout de suite. Ils ont tous des parcours complètement différents, et ces quatre-là vont découvrir une jeune prof de français qui s'appelle Agathe Fortin, et cette prof qui est une prof passionnée, comme on aimerait en rencontrer tous les jours, elle va proposer de les préparer à un concours d'éloquence. En fait, ils sont en train de faire une espèce de truc de rattrapage un petit peu, et parce qu'ils ont pas l'âge légal pour partir au travail. Et donc cette prof va les rencontrer et va leur proposer ce concours d'éloquence. Ils ne sont qu'avec elle en cours, puisque tous les autres préfèrent prendre le cours classique, et ils vont apprendre à réfléchir, à parler. Et c'est un livre qui fait un bien fou, parce que très vite on comprend là où elle veut nous emmener, mais le chemin pour y aller est très très beau, puisqu'au fur et à mesure on va découvrir les 4 parcours de ces ados-là, qui ont 4 parcours complètement différents. Un jeune qui vient de Turquie, qui est une sorte de réfugié politique, une jeune fille qui a appris à se taire parce que il y a que ça, chez nous on est des taiseux et on ne parle jamais, une qui est plutôt très belle, très, qu'on pourrait penser pleine de confiance en elle et qui a un parcours familial terrible, et puis un jeune garçon qui est censé reprendre la boîte de son père, qui ne comprend pas pourquoi il continue à faire des études qui ne servent à rien. Voilà, et ces 4 ados-là on va les suivre jusqu'au bout, jusqu'au fameux concours d'éloquence. Et c'est beau, c'est un livre qui fait du bien, qui donne envie d'avoir encore foi dans l'éducation, dans tout ce qu'on a envie de...
Si, il faut.
Bien sûr. Et combien le métier de prof est compliqué aussi, hein, puisqu'on voit tous les bâtons qui sont mis dans ses roues à cette prof. En tout cas, c'est un livre lumineux, vraiment.
À voir avec à voix haute.
Exactement. Il y a plein de passages en fait qui sont les discours en fait qu'ils vont prononcer, qui sont super, et c'est vraiment un livre magnifique. Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos. On avait commencé avec ce roman-là, on va presque finir avec, parce que c'est un gros coup de cœur, ça s'appelle Le cercueil à roulettes d'Alexandre Chardin. Vous connaissez tout l'amour qu'on a pour Alexandre Chardin et son écriture, on présente quasiment tous ses livres, mais parce qu'à chaque fois c'est des vrais petits bijoux. Alors là, avec Le cercueil à roulettes, publié chez Casterman, on est plutôt dans la tranche d'âge chez les grands, hein, dans les grands ados. Et c'est un livre remarquable, dans l'écriture, on l'a vu tout à l'heure avec l'extrait que je vous ai lu. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Gabriel, et Gabriel en fait, il a perdu ses deux parents, hein. Son père était mort il y a quelques années, et là il a perdu sa mère. Et sa mère, il y avait un lien très fort avec elle. Et le jour où elle meurt, il est recueilli par sa sœur. Et sa sœur lui annonce qu'elle a reçu une lettre, enfin juste avant de mourir, elle lui a donné une lettre. Et cette lettre lui demande d'être enterrée près de son mari. Sauf que lui, Gabriel, sait que son père, elle le détestait. Et que lui-même le déteste. Et il refuse l'idée même qu'elle puisse être enterrée à côté de cet ignoble bonhomme. Et donc il va faire le pari un peu fou, une fois l'enterrement passé, de déterrer la tombe.
Carrément.
De la mettre sur une espèce de chariot, un cercueil à roulettes.
Ouais.
Et de l'amener là où le destin se laissait guider pour lui trouver un nouvel endroit où elle sera vraiment en communion avec ce qu'elle est réellement. C'est un texte un peu fou, comme toujours chez Chardin. On est à la limite du fantastique, parce que c'est pas réel, en fait, qu'elle a un enfant qui... Voilà. Mais on y croit, on a envie d'y croire, parce que ces personnages sont beaux, parce qu'ils sont sincères, et que les rencontres que va faire Gabriel tout au long de son trajet sont tout le chemin qu'il va mener aussi jusqu'à la résilience. C'est un livre magnifique, comme d'habitude avec Chardin. Voilà, c'est un très beau livre. Je vous conseille vraiment de lire ce cercueil à roulettes d'Alexandre Chardin chez Casterman. Et on a juste le temps de parler de votre coup de cœur et de ma BD, et après, on vous laissera.
Thornhill, enfin, je ne sais pas, de Pam...
Thornhill
Thornhill, de Pam Smy, Y, c'est
Smy. Je ne sais pas, Smy.
On est au Werg. Donc, un gros roman lourd, noir.
Tout de noir vêtu, effectivement.
Beau,
même
beau.
Le tour des pages est noir.
Voilà, la tranche est noire et tout. On est dans du gothique, on est dans du roman gothique, avec l'histoire... deux histoires, hein, dans deux périodes différentes, 1982 et 2017, et l'histoire d'une jeune fille dans une pension, enfin c'est même pas une pension, c'est on dirait l'ASE maintenant, c'est un orphelinat, voilà, c'est ça, et elle va subir le harcèlement d'une autre jeune fille, et sa vie est un enfer, c'est monstrueux, et une jeune fille de 2017 qui habite la maison d'à côté, la maison de l'orphelinat est devenue est abandonnée, est devenue une ruine, est très intriguée et elle tombe sur le journal de cette jeune fille de 1982 et elle découvre l'enfer que cette jeune fille a vécu et donc elle va essayer de la rejoindre par-delà le temps, par-delà tout ce qui est impossible à faire. Elle va réussir à la rejoindre. Je ne vous en dis pas plus. Il y a du texte, il y a des chapitres en texte, il y a des chapitres en dessin. On est vraiment dans un univers gothique qui fait frissonner, qui fait peur. On est happé par le suspense. On veut absolument savoir ce qui se passe, qui est arrivé à la jeune fille, aux jeunes filles d'ailleurs, au bout d'un moment. C'est magistral, moi je trouve magistralement.
Bah surtout l'originalité, ouais,
de passer du graphisme au texte, alors que le graphisme, c'est comme si on regardait une série, comme si on regardait un film. Voilà, c'est très cinématographique d'ailleurs au niveau du graphisme. Et c'est une histoire dure. On est sur aussi le harcèlement, bien sûr, mais la solitude et l'abandon des enfants meurtris qui sombrent dans des gouffres sans fin. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette impression-là. Mais avec tous les frissons aussi qu'on peut avoir dans des univers gothiques, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment un très beau livre dans tous les sens du terme.
L'objet est beau déjà.
Dans tous les sens du terme.
Et c'est un premier roman.
Agréablement surprise. Un premier roman aussi. Agréablement d'une anglaise. Hein. Qui s'appelle donc Spam Smy.
Smy.
Smy. Je ne sais pas.
Voilà.
Et merci à elle. Et merci à son éditeur, anglais, je ne sais pas, mais le Rouergue aussi. Et c'est vraiment, j'en veux d'autres aussi, hein, comme les nouvelles.
Ok, ça marche.
Voilà.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de refermer cette nouvelle émission, évidemment, il y a la BD du mois. Et cette BD du mois, ça ne pouvait être, en ce mois de mars, que Miss Charity, l'enfance de l'art, c'est l'adaptation du roman de Mario de Muraille par Loïc Clément et Anne Montel, le tout aux éditions Rue de Sèvres, et c'est un petit bijou.
Et je vais pouvoir le
je sais qu'il déteste qu'on dise ça. Loïc Clément, si tu m'écoutes, c'est un petit bijou. Je sais que tu détestes
un
les...
Un pur diamant.
Oui, un joyau diamant. Qui sort de... Non, c'est une petite blague parce qu'effectivement, il avait raconté une fois sur un de ses posts qu'il détestait les
petits bijoux.
Voilà, tout ce qui était lié à la joaillerie. Donc c'est un diamant pur, en fait. Hein, voilà. Sans blaguer, Miss Charity, pour moi, c'est mon texte chouchou de Mario de Muraille.
Le gros livre,
ouais,
là,
le très très
ça.
Gros livre, voilà, où elle raconte l'histoire donc de l'enfance un petit peu de Béatrix Potter, ouais. la maman de Pierre Lapin, de Peter Lapin. Rabbit, ouais. Et donc on est vraiment dans l'Angleterre 19e siècle, avec tout le
victorien,
voilà, avec exactement le roman victorien, le Jenner, les quatre filles du docteur March, enfin tout cet univers là, je trouve ces références là, et puis cette fille qui n'est pas comme les autres, hein, qui va s'intéresser aux animaux, aux petites bestioles, et qui a un petit côté cruel aussi, qui a un petit côté aussi comment il s'appelle, Delphine et Marinette, je trouve, dans les petites crottées, voilà, et puis enfin il y a plein de on pourrait y trouver plein de références, c'est surtout du Mario de Muraille. Elle se régale à raconter l'enfance de cette jeune fille, et là, en fait, Loïc Clément et Anne Montel, qui ont découvert l'œuvre de Mario de Muraille, c'est Anne Montel d'abord qui l'a lu et qui a dit à Loïc, mais vraiment, il faut que tu lises ce bouquin-là parce que c'est un livre important pour moi et tout. Et il l'est finalement lu et il s'est dit, bah, faut qu'on le fasse. Même si c'est Muraille, même si c'est quelqu'un qui nous semble inaccessible et qu'on ne sera sans doute pas sélectionné pour le faire, il faut qu'on propose à son éditeur de le faire. Et évidemment, Rue de Sèvres a accepté parce qu'ils le font avec un talent fou. On retrouve toute la subtilité du texte de Mario de Muraille, mais en plus ils y ont rajouté leur univers. On sait que Louis Clément et Anne Montel ont un univers très fort, hein, notamment ils avaient fait Chaussettes, ils avaient fait Le Temps des Mitaines, et cet univers là on le retrouve et ils viennent accompagner l'histoire de cette Miss Charity. Alors c'est pas une BD pour les plus jeunes, hein, puisque le texte déjà de Mario de Muraille était vraiment pour les plus grands, donc je veux dire à partir de 10 ans minimum, mais vraiment c'est un livre particulièrement beau, particulièrement bien réalisé. Ce serait ils feront 3 volumes en fait pour faire toute l'histoire, voilà. Donc là on est plutôt dans l'enfance, la jeune enfance de Miss Charity, mais vraiment c'est un livre magnifique. Je vous conseille en plus, si vous avez une librairie sorcière pas très loin de chez vous, d'avoir l'édition spéciale qui a été faite par les librairies sorcières. C'est une édition supplémentaire avec un petit cahier. Vous aurez notamment une interview de Loïc Clément et de Mario de Muraille. Vous aurez aussi un petit tiré à part d'Anne Montel. Donc voilà, donc c'était vraiment notre BD coup de cœur, Miss Charity. Le premier tome s'appelle L'enfance de l'art, Loïc Clément au scénario, Anne Montel au dessin, et le tout d'après le roman de Mario de Muraille, publié chez Rue de Sèvres. Eh bien Véro, voilà, notre course se finit.
Voilà.
On vous souhaite un très bon mois de mars, plein de belles lectures. Ouais. On va se quitter en musique comme d'habitude avec le dernier titre de L'échappée belle, Serena Fissot, aimée de la salle, ça s'appelle Il importe peu, et on vous souhaite de très très belles lectures.
Au revoir, monsieur.
À bientôt.
Simon.
Balancée par le vent, je dormais dans les branches. C'est pourquoi les bouleaux, un beau jour de septembre, ont fini par me prendre vraiment pour un oiseau. Depuis lors, j'ai des ailes et il importe peu que vous trop plein de zèle
n'y voyez que du feu. Je suis devant de ciel, je vole et suis heureux. Je suis devant de ciel, je vole et suis heureux. Balancé par le vent, je dormais dans les branches. C'est pourquoi les bouleaux, un beau jour de septembre, ont fini par me prendre vraiment pour un oiseau. Je suis devant de ciel, je vole et suis heureux. Je suis devant de ciel, je vole et suis heureux. Je suis devant de ciel, je vole.